La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Au menu de notre club cet après-midi, deux nouveaux candidats en route pour la finale de ma thèse en 180 secondes. Nous entendrons ensemble le chant de la forêt et nous vous ferons connaître le jeu de l'amour sans le hasard avec un docteur en mathématiques. Et je vais vous présenter bien sûr mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui c'est un herbicide qui nous intéresse.
Oui, un herbicide naturel découvert chez une mousse et qui a peut-être de beaux jours devant lui, la radulanine. Ah, c'est dans un instant.
Et c'est Frédéric Milano qui réalise ce club préparé. Et aujourd'hui par Irène Menahem et Lucie Sarfati.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je souhaite la bienvenue à tous nos invités. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Très heureux de vous accueillir. On va faire connaissance, entre autres, avec deux nouveaux candidats donc en lice pour le concours de ma thèse en 180 secondes, Liliane Ciani et Tom Mébarki. Vous allez bien ?
Très bien.
Oui, Liliane Ciani, vous êtes doctorante à l'université de Reims-Champagne-Ardennes, au CERIC, hein, c'est le laboratoire centre d'études et de recherche en histoire culturelle. Quel est le sujet de la thèse, Liliane, que vous allez défendre le 13 juin prochain sur la scène de Grenoble?
Le fameux festival de Béziers contre Bayreuth.
Ouais. Vous êtes musicienne?
Oui, oui, oui.
Vous êtes en musicologie, en
l'occurrence? En musicologie, voilà, je suis un peu pianiste aussi, et jeune compositrice en herbe.
Ouais. Et danseuse aussi un petit peu, non?
Sous la douche, dans le studio.
Bon, vous allez nous expliquer pourquoi vous vous êtes intéressée évidemment à ce sujet, parce que Béziers et Wagner, en l'occurrence Bayreuth, on a envie de savoir quel est le lien entre les deux. Tom Mébarki, vous êtes doctorant, vous, à Aix-Marseille Université, au PRISM, le laboratoire Perception, Représentation, Images, Sons et Musique. Quel sera le sujet de thèse qu'on va pouvoir entendre à Grenoble le 13 juin?
Alors, je vais tenter de parler de Rossini et de montrer qu'il peut être comparé avec des esthétiques plus contemporaines d'aujourd'hui. Ouais.
C'est même le premier rappeur.
Voilà, c'est entre autres.
Entre autres.
Les Italiens.
Vous êtes musicien également?
Oui, je joue aussi un peu de piano et je suis chanteur d'opéra.
Quelle est votre tessiture?
Je suis contre-ténor.
On aimerait bien vous entendre tout à l'heure, Tom. On verra ça dans un instant. Sophie Becherel, bonjour Sophie. Quel est votre coup de cœur cette semaine?
Pour Le Chant de la Forêt, un film brésilien et portugais à mi-chemin entre le documentaire et le conte. Il est sorti ce mercredi en salle. Il avait obtenu l'année dernière à Cannes le prix spécial du jury dans la catégorie Un certain regard. Et c'est une merveille. Ça raconte l'histoire d'un jeune indigène qui, entendant la voix de son père lui intimer d'organiser sa fête funéraire, va se trouver complètement très très mal à l'aise et confronté à son destin. Qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai donc proposé à Cédric Ivinec, ethnologue, spécialiste des suruis et non pas de cette communauté amazonienne qui sont les Crao, mais tout de même, il est chercheur, il travaille au Brésil, de venir évoquer les thèmes de ce film. Vous diriez bien que c'est un film entre réalité et fiction?
Oui, puisque c'est une histoire qui est racontée. Ce n'est pas un documentaire ethnographique qui serait conté par une voix off. On suit au contraire le point de vue d'un individu Crao, un jeune homme très jeune, presque encore adolescent, tout jeune père, et qui donc vient de perdre son père et qui est confronté à des rêves qu'il interprète comme le signe d'un destin chamanique qui l'inquiète beaucoup.
Donc on va en savoir plus. C'est sorti mercredi
plusieurs salles à Paris et en province. Très très joli film.
Et puis enfin, Laurent Pujot, Montjouet, vous êtes docteur en mathématiques et maître de conférence à l'université de Lyon 1. Vous publiez Le jeu de l'amour sans le hasard, mathématiques du couple aux éditions Équateur. Quand on a reçu votre livre, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On s'est renseigné pour savoir si c'était sérieux, et ça l'est absolument.
Ça l'est absolument. Ouais. L'amour c'est sérieux, les mathématiques c'est sérieux, les deux sont complexes, et l'idée c'est de les mélanger. Et je vous préviens tout de suite, je chante pas.
Non, non, mais vous avez des clés pour une relation amoureuse, en tout cas épanouie, on l'espère.
En tous les cas, dans le livre, j'essaie de vous la livrer. La clé pour la réussite du couple, sa longévité heureuse au maximum, oui.
Vous qui êtes chercheur en système complexe dans ce domaine particulier des mathématiques, et l'amour est bien complexe, effectivement, vous nous le dites.
Oui.
Allez, on va découvrir ça dans un instant. Et puis bien sûr, vous répondrez tous aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. avec un nouvel herbicide naturel découvert par des chimistes de l'école polytechnique. C'est la une de la science aujourd'hui, Axel.
Oui, Mathieu, la radulanine A, c'est son nom, a peut-être de beaux jours devant elle en agriculture. C'est une molécule organique découverte chez une mousse et qui est capable de tuer efficacement les mauvaises pousses presque aussi bien que le trop fameux glyphosate, un effet herbicide qui vient d'être démontré et un brevet pour sa synthèse déposé également dans la foulée. On discute de l'avenir des herbicides naturels aujourd'hui, avec vous, Bastien Naï. Bonjour.
Bonjour Axel.
Vous êtes chercheur au laboratoire CNRS de synthèse organique de l'école polytechnique. Tout d'abord, comment est-ce que vous avez découvert qu'une plante, cette mousse, la radula, était capable de produire un herbicide? Parce qu'à première vue, ça paraît assez suicidaire comme capacité.
En fait, toutes les plantes produisent des petites molécules qui sont capables d'interagir, de permettre une interaction avec les autres organismes vivants de leur environnement. Mmh. Et c'est ce qui nous a interpellé dans le cas de ces petites mousses, c'est qu'elles produisaient cette molécule et qu'elles étaient connues, ou pas, du moins par analogie, on a fait le rapprochement avec une molécule qui avait des propriétés herbicides.
Voilà. À quoi est-ce que ça lui sert de produire un herbicide, même en petite quantité?
Ça lui sert probablement à communiquer avec d'autres plantes et à se protéger ou à préserver son espace naturel. En l'occurrence, pour la molécule qui nous intéresse, il est possible aussi qu'elle serve d'hormone végétale pour la plante qui la produit.
Est-ce qu'elle est sensible elle-même ou protégée par rapport aux effets herbicides de la molécule qu'elle produit?
Oui, mais s'il s'agit d'une hormone végétale, il est bien possible que cette hormone-là, à certaines saisons, interviennent pour provoquer un effet de dormance ou de tomber des feuilles, peut-être, je ne sais pas.
D'accord. Alors, l'étape importante que vous venez de franchir avec cette étude, c'est la synthèse de cette radulanine. Alors, expliquez-nous d'ailleurs, pour commencer, la différence entre une molécule de synthèse, donc artificielle, et la synthèse de molécules, parce que l'ordre des mots a une importance quand même.
Alors, une molécule, de toute manière, est toujours une molécule chimique. Ça, ouais. C'est toujours, c'est une règle. Ensuite, dans la nature, on trouve des molécules qui sont produites naturellement par des organismes vivants. Les molécules qui sont produites dans la nature, on peut les reproduire par synthèse chimique. Alors, il y a des molécules de synthèse qui n'existent pas dans la nature. Et c'est ce qu'on appelle communément les molécules de synthèse
artificielles.
Ouais. Ouais. Et par contre, on fait aussi des produits naturels de synthèse, on les reproduit.
Et pourquoi est-ce que c'est important d'ailleurs de réussir à synthétiser cette molécule qui est à l'origine naturelle pour envisager de l'utiliser peut-être à grande échelle ou dans l'agriculture?
Alors ça permet de la rendre disponible déjà, ça c'est une des premières raisons. On fait ça par synthèse totale, en fait c'est une science qui permet à partir de petits fragments d'atomes ou de toutes petites briques moléculaires, mm-hmm, de reconstruire une molécule complexe qui existe dans la nature. Donc en l'occurrence là, la synthèse totale, notre discipline, nous permet de reproduire ces molécules-là pour ensuite les étudier.
C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de prélever la plante originale?
Exactement. Alors, ça peut être un avantage quand on a une plante menacée de faire ces molécules par synthèse parce qu'on n'a pas besoin d'aller prélever la plante dans la nature.
Alors, dans un contexte où on cherche des successeurs au glyphosate, est-ce qu'il y a un attrait particulier en ce moment vers les molécules issues du vivant ou les molécules naturelles?
Alors, les molécules du vivant ont un certain nombre d'avantages. D'une part, elles sont extrêmement diverses. Et ça leur donne la possibilité également, en plus d'être diverses, elles ont été sélectionnées par l'évolution. Et ça permet éventuellement de trouver des molécules avec de nouvelles cibles d'action chez la plante et donc de nouveaux modes d'action. Donc ça, c'est un réel avantage. Alors, évidemment, il y a d'autres inconvénients, par exemple le fait qu'il se peut qu'elle ait une durée de vie réduite dans l'environnement, mais ça va dépendre de la structure de la molécule qui nous intéresse.
Est-ce que c'est aussi gage d'une toxicité moindre pour l'environnement ou les animaux?
Pas du tout. Il faut que ça soit bien clair. Ouais. Naturel ne veut pas dire non toxique. Parce que souvent, on peut faire la confusion, on peut entendre la confusion. Ouais. Ça n'est pas du tout vrai. C'est pour ça que à la suite de travaux comme ça, il faut absolument tester la toxicité de ces molécules-là sur des organismes vivants, sur l'environnement.
Alors, vous avez choisi d'orienter vos recherches vers ces molécules naturelles. Quel est l'intérêt que vous y voyez par rapport à l'artificiel?
Sur ces molécules-là, elles nous intéressent, d'un point de vue général, les substances naturelles nous intéressent parce qu'elles sont complexes et parce qu'elles sont produites par des organismes vivants. Et par ailleurs, elles sont souvent associées à une activité biologique. Ouais. Et ça, ça nous permet d'envisager plein de choses avec ces molécules-là, soit de les utiliser dans ce cas-là en agriculture, mais ça pourrait être aussi avec d'autres molécules en médecine ou comme outil en recherche fondamentale.
Alors, quelle est la suite maintenant concernant cette radulanine? Est-ce que vous allez essayer de la produire à grande échelle ou tester sa toxicité? Parce que vous ne l'avez pas fait encore.
Non, on ne l'a pas fait, donc attention à ça quand même. Oui. C'est une des premières choses à tester, c'est est-ce que cette molécule pourrait être utilisable. Évidemment, il nous faut optimiser nos modes de synthèse pour la rendre disponible à plus grande échelle. Ça, c'est tout un pan de travail à réaliser.
Donc, il y a du boulot à venir, hein, finalement.
Beaucoup de travail.
Et bon courage à vous. Merci beaucoup d'être passé par la Une de la Science pour nous en parler. Vous êtes chercheur au laboratoire CNRS de synthèse organique à l'École Polytechnique. Merci beaucoup à vous. Merci. Axel, bon week-end.
Et bon week-end, Mathieu.
On se retrouve lundi. Dans un instant, c'est le club.
Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nous rêve. Je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières en oubliant. Viens avec moi, mon vieux pays. Le vent me rêve, le vent se lève aussi.
Viens avec moi, mon vieux, c'était Émilie Loiseau et The Blind Seats.
C'est parti.
La tête au carré, ma thèse en 180 secondes sur France Inter.
À toi. Voilà, on va commencer ce club effectivement avec deux nouveaux candidats en route pour la finale de MT180. Et puis on vous fera entendre également dans cette émission le chant de la forêt. Et on parlera du jeu de l'amour sans le hasard. Cette finale du concours MT180 qui approche donc à grands pas. Ce sera le jeudi 13 juin prochain à Grenoble sur la scène de la Maison de la Culture avec le CNRS et la CPU, la conférence des présidents d'université qui organise donc ce concours pour la France. Et en partenariat avec la Tête au Carré. Et à l'issue de la demi-finale, eh bien 16 doctorants ont été sélectionnés. Et ils viennent nous voir tous les vendredis avant d'accéder donc à la finale nationale. Liliane Ciani et Tom Mebarki, vous êtes les deux nouveaux candidats. Avant de parler de vos sujets de thèse, qu'est-ce qui vous a donné envie à tous les deux de participer au concours, Liliane Ciani?
L'envie de se faire peur, c'est ce que je dis tout le temps, mais c'est vrai.
Et vous avez bien réussi, je crois.
Voilà, je suis très contente, donc on continue. Non, et puis l'envie de partager ça, et voilà, je me répète un peu, mais l'idée de créer un petit personnage. Et,
c'est vrai?
Ouais, de jouer comme ça, avec le public.
Ouais. Et donc, c'était aussi sortir un petit peu des habitudes, hein,
oui,
pour pouvoir tester la scène.
Clairement,
surtout
oui.
Vous êtes quand même proche de ce milieu scénique, hein, par oui. Vos études en musicologie.
Ouais. C'est vrai. Puis j'ai eu l'occasion de croiser des chanteurs aussi, quelques metteurs en scène, quelques comédiens. Donc, c'est tout l'occasion aussi de mettre ma petite pierre à l'édifice.
Ouais. Et vous, Tom, qu'est-ce qui vous a motivé?
Alors à la base, c'est parce que j'étais un peu bloqué dans mon sujet de thèse. J'intellectualisais beaucoup trop mon propos et je me suis dit ça va me permettre de repartir sur les fondamentaux, sur vraiment pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer à faire ça. Mm-hmm. Et donc effectivement, ça m'a un peu débloqué. Depuis, j'ai écrit quelques pages, donc c'est déjà pas mal.
Ouais.
Et il y avait aussi l'idée que je voulais essayer d'oraliser ce qui s'écrit en fait, parce que la recherche, ça se fait beaucoup à l'écrit, c'est très silencieux, c'est un mutisme permanent. Et l'idée finalement de la mettre en spectacle, c'est une rencontre de deux inattendus qui fait que voilà, c'était une expérience que je voulais vraiment tenter.
Donc vous cherchez un grand haut-parleur. vous êtes gâtés aujourd'hui, puisqu'on va pouvoir justement en savoir plus sur votre thèse. Liliane Ciani, donc doctorante à l'Université de Reims Champagne-Ardenne, dans ce laboratoire CERIC. Comment est-ce que vous avez fait, vous, le choix de ce sujet de thèse, qui est, on le rappelle, le Festival de Béziers au tournant du XXe siècle, un Bayreuth français, point d'interrogation.
Telle est la question.
Ouais.
Mais à vrai dire, je cherchais un sujet plutôt proche de mes origines toulousaines.
Mmh.
Donc recherche sur internet et là je tombe sur un compositeur qui s'appelle Aimé Quinque. Et donc je commence à regarder sur le site de l'association Aimé Quinque et je commence à regarder son répertoire et tout d'un coup je vois tragédie lyrique. Or pour moi la tragédie lyrique ça s'arrête à Gluck, je ne pensais pas que ça s'était poursuivi jusqu'au XXe siècle. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des choses à approfondir. Je me suis dit spectacle grandiose, proche du péplum, c'est pour moi.
Ah voilà, c'est ça, vous aimez vraiment le grand spectacle et quand ça bouge. Alors Wagner c'est parfait pour ça d'ailleurs, hein,
aussi avec le dans
festival
un autre
de Bayreuth.
Genre.
Ouais. On va écouter un extrait de votre prestation, c'était à l'occasion de la demi-finale nationale et c'était à Reims.
Mon Dieu.
Est venu le temps de l'analyse de la dramaturgie. Oui, il me faut notamment comprendre les rapports entre les personnages. Je souhaite aussi établir quel est le rôle de la musique. Caractérise-t-elle les personnages? Parle-t-elle à leur place? Accompagne-t-elle les scènes de danse? Il me faut étudier chaque pièce séparément, puis les comparer les unes aux autres afin d'en dégager les similarités et les différences. Peut-être un modèle s'est-il pérennisé au fil du temps. Et après cet intense labeur, je pourrais alors entreprendre un travail d'adaptation, entouré des apôtres Depardieu et Besson.
Ah oui, carrément, vous avez de grandes ambitions finalement. Hein. Ouais. Et vous expliquez toute la méthodologie de votre travail de thésarde. On sait absolument tout où vous êtes allé, comment vous avez travaillé pour chercher les documents.
Je pense que c'est important que les gens comprennent qu'une thèse, c'est pas simplement sur quoi je travaille, mais aussi avec quoi je travaille et où je travaille. Donc je tenais absolument à brasser tous ces... Voilà,
pourquoi c'est intéressant d'étudier le festival de Béziers alors?
Parce que je pense qu'il est bon d'avoir des exemples comme ça. Des exemples français d'entreprises ambitieuses qui justement ont cherché à proposer un autre modèle que celui de Wagner qui était très dominant à l'époque, notamment dans les institutions parisiennes.
Mmh.
Et là, c'était l'occasion de parler un peu de la province et de voir ce qui s'était fait dans ce cadre-là, dans un dans un lieu quand même assez extraordinaire, en plein air, dans des arènes. Voilà,
c'était mais là, vraiment... c'est la province au 19e siècle. Là.
Exactement, fin 19e et début 20e. Il y a eu Béziers, il y a eu Orange, bien évidemment, pardon, avec les Courrégies, il y a eu Nîmes également. Donc il y a tout un bastion comme ça dans le sud-est, qui c'est pas que dans le sud-est, hein, ça concerne toute la France, mais là particulièrement.
Ouais. Mais c'est vraiment un festival qui, à l'époque, a essayé de rivaliser avec Bayreuth.
Sincèrement, oui, je pense qu'on peut le dire. Et puis même la presse locale, nationale, étrangère, avec les Courrégies d'Orange, je disais, ah, il se passe quelque chose là. Ouais. Voilà, il y a le président de la République qui se déplace là-bas, les ministres aussi qui viennent voir.
Et les grands compositeurs et artistes de l'époque quand même.
C'est hein, ça, Saint-Saëns, Forêt. Et aussi une nouvelle génération également pour qui ça sert de tremplin.
Ouais. Donc vous avez envie de montrer aussi ce qu'était la décentralisation à cette époque, alors qu'on n'en parlait pas, évidemment.
C'était... C'est ça. Alors, on n'en parlait pas, si, quand même.
Il y avait une politique de décentralisation au 19e.
Disons qu'il y avait un débat quand même autour de ça. Ouais, ça posait question. La plupart des compositeurs que j'étudie, certains ont beaucoup d'origine voilà, provençale, languedocoise. Ouais. Donc, c'est un débat quand même.
Donc, c'était sortir la culture de Paris.
Oui, vraiment. Ouais. Et cette idée de démocratiser la musique dite savante auprès du grand public, des classes populaires. Il y a vraiment cette obsession-là chez les politiques de la Troisième République.
Bon, c'est ce que vous allez nous raconter donc, en 180 secondes sur la scène de Grenoble, de la Maison de la Culture. Vous avez pris du plaisir là, sur les premières prestations ou il y a eu beaucoup de stress
à Reims, un peu stressé. Je ne sais pas comment Tom l'a vécu, mais moi, les demi-finales, ça a été encore plus stressant.
C'est vrai. Pourtant, vous aviez l'air quand même assez à l'aise. Vous êtes une performeuse.
Il paraît, mais alors je cache bien mon jeu.
Ouais. Tom Lebarki, comment vous avez vécu ces prestations scéniques alors?
Alors, très 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 mal. À Aix-en-Provence, hein, j'étais vraiment en train de mourir en fait intérieurement.
Ah, vraiment? Vous avez bien ressuscité quand même.
On me le dit souvent. Et par contre, à Paris, en fait, c'était complètement différent. Déjà parce qu'il n'y avait pas des proches qui étaient en train de me regarder, parce que c'était un comité restreint. Et il y avait aussi le fait que j'ai eu la chance d'avoir été sélectionné à mon université. Et puis maintenant, le reste, c'est que du bonus. Pour moi, c'est voilà. Maintenant, il faut que je profite à fond de tout ce qui arrive.
Ouais. Donc, c'est au tour de Rossini, en l'occurrence, cette thèse, et de l'opéra bouffe en particulier.
Alors oui, je travaille particulièrement sur les opéras comiques, donc l'opéra bouffa. Donc, le début de la carrière de Rossini, en fait, ça fait vraiment 5-6 ans véritablement dans toute sa carrière, sachant que Rossini s'est arrêté de composer des opéras très tôt en fait, à la moitié de sa vie, et après il est allé manger à Paris, il a fait plein de trucs.
Alors c'est étonnant parce que vous avez deux thèses en musicologie, ce qui est assez rare d'ailleurs dans le concours, je ne sais pas s'il y en avait eu dans les précédentes éditions, j'en ai pas le souvenir en tout cas Sophie. Hein. Donc là vous vous retrouvez face à face.
C'est ça, on est très heureux en fait, je pense que la musicologie, que les sciences humaines déjà sont représentées, et que la musicologie, les arts effectivement, aient aussi leur place avec toutes ces sciences dures.
Alors Tom, on va écouter un extrait de votre performance, vous aussi. C'était pour la demi-finale à Aix-en-Provence.
Bon alors en effet, mon travail consiste à démontrer la proximité entre d'une part la musique de Rossini et d'autre part les musiques commerciales d'aujourd'hui. Parce que pour l'une comme pour l'autre, le rythme va être répétitif à l'excès. L'harmonie va être simple, voire minimaliste. Et la mélodie va souvent jouer sur une dimension enfantine. Ça c'est pour le côté vocal. Et pour le côté instrumental, Rossini va utiliser la voix de deux manières. Alors soit en la faisant vocaliser d'une manière qui peut rappeler les vibes dans le R&B aujourd'hui, soit en la faisant parler, chanter très vite, ce qui fait de Rossini l'un des premiers rappeurs de l'histoire de la musique.
Voilà, premier rappeur, c'est plutôt étonnant, et vous dites même compositeur commercial pour l'époque, vous allez jusque-là?
C'est-à-dire qu'en fait, il était vraiment historiquement à son époque considéré par les élites, par Berlioz notamment, par Beethoven, tous ces gens-là qui étaient en fait les tenants de la nouvelle musique instrumentale et de la musique romantique. Alors il était considéré soit comme un post-classique, soit comme un classique un peu attardé, en tout cas une musique qui est pour les masses une musique populaire. Et en fait, j'essaie vraiment de faire l'analogie entre la musique populaire du 19e et la musique commerciale d'aujourd'hui, parce que finalement, il y a un peu les mêmes attitudes dans l'écriture.
C'est ça. Et il faisait des tubes à la chaîne, Rossini.
C'est ça, en fait. aujourd'hui encore, on entend bien dans les publicités. Enfin, voilà, Rossini est bien diffusé dans les médias de masse d'aujourd'hui, puisque ce sont des musiques qui sont étudiées pour plaire et pour tout de suite accrocher le spectateur.
Absolument.
Comme les tragédies lyriques de Béziers, par exemple.
Là, c'est l'orchestre symphonique avec toutes ces lignes contrapuntiques. C'est en recherche autre chose, justement une forme de grandiose.
Alors Tom Lebarki, vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes chanteur également et contre-ténor, c'est ça. Donc c'est une tessiture assez haute pour les voix masculines. Hein.
C'est ça, en fait, on chante en voix de tête et donc effectivement c'est...
Et vous m'avez promis de nous faire un petit extrait d'un tube de Rossini, alors on a envie d'entendre ça, ce serait quoi par exemple?
Ça reste entre nous alors.
Oui, bien sûr, ça sort pas du studio, c'est promis.
Alors, ce serait un opéra, alors pas comique, plutôt tragique, Tancrède. Je vais essayer. Hein.
Sarà felice il cor me le dice, il mio destino vicino a te.
Bravo! Un extrait d'un tube de Rossini, voilà. Tom Mébarki, contre-ténor. Est-ce que vous allez chanter sur la scène de MT180 ou
alors,
pas?
Non, non, hein. Je voulais pas faire le musicologue qui en plus est musicien en général. On les sépare vraiment. On a ceux qui écrivent sur la musique et on a ceux qui font de la musique.
C'est ça.
Non, je plaisante. On essaie de plus en plus de faire les deux. Mais
Yann, elle chante, on l'a entendu tout à l'heure dans un extrait de Notre-Dame de Paris.
Il est venu le temps des cathédrales.
Oui, c'est ça, absolument. Bon, on vous souhaite bonne chance en tout cas à tous les deux.
Merci beaucoup.
Et puis, ben, vous restez avec nous évidemment puisqu'on va poursuivre ce club dans un instant, et ce sera le 13 juin pour la finale nationale. On peut regarder toutes les prestations en vidéo sur le site mt180.fr.
A fallen heart will lie in a bed that I will make out of stone, out of clay. What are the hearts that I will break? My breath will find a way, pale light and delicate, to help you through the day, the beginning of the week. My strength will know.
C'était Jeanne Haddad.
Le club sur France Inter.
Voilà Sophie, comme tous les vendredis, votre coup de cœur de la semaine.
Oui, donc pour un film dont on va peut-être entendre un petit peu de musique, qui s'intitule donc Le Chant de la Forêt et qui est sorti en salle ce mercredi. Alors ce film se passe au sein d'un village, d'une tribu Crao, donc en Amazonie. Il narre l'histoire d'Ignac, un jeune indigène qui entend une nuit la voix de son père disparu. Son père lui intime l'ordre d'organiser donc la fête funéraire qui doit libérer son esprit, et Ignac se retrouve alors confronté à son destin, le pouvoir de communiquer avec les morts, et ce qu'on lui demande d'être, finalement, c'est un chaman. Donc, je vous le disais, on n'a pas trouvé de spécialiste français du peuple Crao, et donc on a invité un autre, un ethnologue qui travaille sur une autre tribu amazonienne. Cédric Ivinec. Il y a donc plusieurs thèmes qui sont abordés dans ce film qui est à la fois un documentaire et un conte, enfin où il y a de très 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 belles images et on est emmené avec ce personnage et sa famille. Commençons par le chamanisme. Donc on voit qu'il va refuser ce qui lui est demandé, devenir chaman. Qui dans ces tribus indigènes est aujourd'hui chaman? Comment ça vous tombe dessus, si c'est le cas d'ailleurs?
Ce qu'on appelle chaman, et qui correspond à divers termes propres à chaque langue, c'est en général des gens à qui sont reconnues des capacités thérapeutiques, qui s'exercent principalement au moyen de chants, dans divers rituels, qui permettent de communiquer avec des entités surnaturelles, des esprits des morts ou des esprits des animaux. Pour schématiser, on peut distinguer en gros, dans les populations amazoniennes, deux moyens d'arriver au chamanisme. Dans certains cas, on le devient volontairement en suivant un rituel initiatique et un enseignement auprès d'un chaman déjà confirmé, qui transmet son savoir et qui impose diverses épreuves initiatiques. Et il y a des cas où ce n'est pas une initiation, mais c'est au contraire plutôt une vocation, une révélation par ces entités surnaturelles de cette vocation, souvent à l'occasion d'une maladie ou d'un accident. Et c'est alors souvent l'entourage du malade qui interprète certains signes, certains symptômes, comme étant le signe de cette vocation chamanique et qui pousse ou pas l'individu à s'engager dans cette voie, comme c'est le cas dans ce film. Le personnage est poussé par plusieurs de ses parents
chaman. C'est ça, mais lui refuse. Est-ce qu'on peut refuser d'être chaman? Puisque donc il va essayer de fuir ce destin, de partir à la ville pour qu'on l'oublie, en somme, pour que les esprits l'oublient. Est-ce que c'est possible de refuser ce
rôle?
Oui,
c'est souvent possible, parce qu'il y a de nombreuses raisons qui poussent les gens à ne pas vouloir être chaman, souvent. Parce que c'est souvent une activité qui est dangereuse, puisque ces esprits avec lesquels on communique, qui permettent de guérir les gens de maladies, sont aussi ceux qui causent les maladies. C'est parce qu'ils causent les maladies qu'ils permettent de les guérir. Et ce sont des entités qu'on ne voit pas, qui sont donc assez mystérieuses. On utilise souvent des chants que l'on ne comprend pas. D'ailleurs, dans le film, les chants ne sont pas traduits, qu'on ne comprend qu'à moitié. Ce qui est, on voit bien quand le film adopte le point de vue du personnage, le personnage ne comprend pas exactement ce que c'est que le chamanisme et il en a parfois peur, au point de parfois perdre conscience.
Ce qu'on entend là, ce sont justement les propos du chaman. Vous regrettez que ce ne soit pas traduit, parce que ça a un sens, les paroles des chamans, ce ne sont pas que des incantations vis-à-vis des esprits.
Alors ça peut être très différent d'une tradition chamanique à une autre. Dans certains cas, les chants sont pleinement compréhensibles par toute la population. Dans d'autres cas, ce sont des chants qui sont purement musicaux et qui n'ont aucune signification verbale. Et on a souvent toute une gamme intermédiaire où le chant est en quelque sorte assez opaque. On ne comprend pas tout, mais on comprend une partie. Et on comprend qu'il y a peut-être quelque chose à comprendre qu'on ne comprend pas. Et c'est sur ce jeu que s'établissent souvent les capacités du chaman et son pouvoir de persuasion sur ses interlocuteurs.
Donc là, Sophie, on est dans la forêt amazonienne avec ce film?
Oui, hein, on est donc dans un village, enfin plutôt un paysage de savane, c'est pas vraiment la forêt, même s'il y a des scènes qui sont tournées dans la forêt. Et donc, visiblement, ces villageois sont éloignés de la ville, puisque pour échapper à son destin, il va partir en ville. Et c'est un autre thème du film, confronté donc à la modernité. Il arrive et il est accueilli dans une maison des Indiens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces maisons d'Indiens? Là, ça ressemble un peu à une guest house, où donc il va être accepté, enfin où il va avoir l'autorisation de loger, mais est-ce que c'est vraiment ça?
Guest house, le terme est peut-être un petit peu trop favorable. Le terme qui est traduit par maison des Indiens, c'est ce qui s'appelle en portugais casai, qui est l'acronyme de Casa do Índio, qui est en fait une sorte de maison de santé indigène qui vise à offrir des soins médicaux en prenant en compte la différence culturelle pour répondre aux difficultés qu'elle crée en matière sanitaire, à la fois au niveau des conceptions de la maladie, des difficultés linguistiques, des problèmes de régime alimentaire, de la nécessité d'avoir des accompagnants, surtout s'il s'agit de personnes âgées ou de jeunes enfants qui ne parlent pas portugais. Ces gens sont donc hébergés dans une maison en ville et où ils sont aussi nourris puisqu'ils n'ont pas d'argent et ne pourraient pas se maintenir en ville. Souvent, celles que j'ai vues sont dans un moins bon état et remplissent assez mal leurs objectifs, faute de moyens en général. Les médecins, ils sont peu payés, pas, souvent peu sensibles, parfois peu sensibles à la condition des Indiens. Et parfois, on cherche à repousser les Indiens, à les renvoyer au village. Et c'est précisément une des scènes du film où on lui dit « Non mais toi, ce que tu appelles maladie, pour nous, la seule maladie que c'est de l'hypocondrie. » Alors même que pour les Indiens, un problème relationnel à la fois au niveau des relations spirituelles avec les entités surnaturelles, avec les esprits, et un problème de relations sociales avec sa famille est tout à fait interprété comme quelque chose qui est une maladie, qui est une transformation de soi et de son corps, et qui nécessite un traitement par un chaman ou par un médecin. Et c'est ce que le médecin refuse de comprendre dans le film.
Et ce que le film montre très bien, c'est qu'en fait, ce jeune homme, il est atteint de dépression, c'est-à-dire qu'il cherche son rôle social dans son groupe. Est-ce qu'il est jeune, mais il a quand même une épouse et un petit garçon. Et puis alors, l'autre chose qui est assez fascinante, c'est que le rythme est extrêmement lent, et à l'heure où on va dire la planète est en train de détruire la biodiversité, on sent que le message des deux réalisateurs, c'est de nous dire prenez le temps peut-être d'écouter la nature. Moi j'ai trouvé ça très très beau, cette relation très simple, hein, très épurée en fait avec la nature. Est-ce que c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui dans les communautés indigènes, c'est-à-dire on coupe le champ, en fait on ne fait que s'auto-suffire? Voilà, on ne consomme pas comme le reste de la planète.
C'est ce qui se passe parce que beaucoup de gens n'ont pas d'autres moyens de se nourrir que de cultiver. En même temps, beaucoup de ces communautés sont soumises à une pression coloniale extrêmement puissante, à la fois parce que leurs moyens de subsistance sont détruits, parce que leurs terres sont envahies, et aussi parce que les terres qui leur ont été allouées sont souvent très petites par rapport à la croissance démographique qu'elles connaissent. Et enfin, parce que les Indiens, comme tout le monde, sont soumis à la pression de la consommation, à l'attrait pour les biens de consommation industrielle, et en conséquence, cherchent des moyens de se les procurer, parfois par diverses activités légales ou illégales. Et c'est quelque chose qui peut être très perturbant pour l'équilibre social de ces communautés.
Alors Sophie, c'est donc à la fois documentaire et fiction, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire ouais. Que là, on vous donne l'éclairage d'un ethnologue, donc vous voyez, on apporte des informations qui ne sont que suggérées, on va dire, dans le film. C'est vraiment un film dans lequel on s'immerge, la bande-son est sublime, l'image est exceptionnelle. Et donc oui, c'est à mi-chemin entre le documentaire, il a d'ailleurs été, la communauté Krao a participé à l'écriture, je pense, et à ce film. Elle dit quelque chose de son quotidien, et en même temps, il y a du conte, parce qu'il y a cette histoire de rencontre avec les esprits, et ce jeune homme, il est vraiment pas bien, parce qu'on lui intime l'ordre de faire des choses, et puis est-ce qu'il tente d'échapper à cette injonction? Comment il va s'y retrouver? Voilà, c'est magnifique.
Le chant de la forêt, il y a peu de salles en France, donc il faut bien repérer près de chez soi, hein, voilà, où ça se trouve.
Ce qui en portugais, je crois, s'appelait la pluie et les morts. Ouais. Parce qu'il y a tout évidemment cette cérémonie des funérailles qu'il faut organiser pour le papa disparu.
Le titre portugais signifie, je crois, la pluie est le chant dans le village des morts. Voilà, autrement dit, les morts interprètent la pluie comme un chant.
Le chant de la forêt, donc, pour la France. Et c'est sorti mercredi dans les salles. Allez, dans un instant, on va vous donner les clés pour vivre un amour parfaitement harmonieux grâce aux mathématiques. Eh oui.
Moi, j'ai pas envie de travailler. Je n'aime pas les congés payés. Moi je veux des filles et de l'argent, des beaux costumes et du bon temps. Dormir le jour, courir la nuit. Oui, 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 ça c'est ma vie. moi les bourgeois, ça me fait frémir avec leur fric et leur tirelire. Ils n'aiment pas mes cheveux dans le cou, moi je les emmène, je m'en fous. Je me tape leur fille et leur whisky. Oui, 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 ça c'est ma vie. Une fille qui me plaît, je me l'envoie. Que ça lui plaise ou que ça ne lui plaise pas, et si elle veut pas, je lui fais une grosse tête. Quant à son Jules, c'est pas sa fête. S'il est trop fort, j'ai mes amis. Ça c'est ma vie. Oh oui. Chou-dou-dou-dou-dou-dou.
Et c'était Nino Ferrer à l'instant avec le blues anti-bourgeois.
Le club sur France Inter.
Voilà, Laurent Pujot, bonjour. Vous êtes notre dernier invité, docteur en mathématiques, maître de conférence à l'Université de Lyon 1. Vous enseignez à Claude Bernard Lyon 1 et à l'Institut Camille Jordan. Et vous êtes spécialiste de systèmes dynamiques, des systèmes dynamiques. Et vous publiez donc ce livre chez Équateur Éditions, Le jeu de l'amour sans le hasard, mathématiques du couple. Quand on voit le titre de votre livre, au départ on se dit, mais comment est-ce qu'on peut parler d'amour en faisant les mathématiques? Est-ce bien sérieux cette affaire? Or, on se rend compte que finalement, ben, vous n'êtes pas le premier à vous être intéressé à ce sujet-là, hein, et associé mathématiques et relations amoureuses.
Exactement, je ne suis pas le premier, et ça date de 88, hein, le premier. Et alors, le premier qui l'a utilisé, c'est Steven Strogatz, pour intéresser ses étudiants en mathématiques.
Donc c'était
un prof américain, ouais, qui voyait ses étudiants qui s'embêtaient, en fait, hein, et il, ouais, a dit, tiens, je vais donner une interprétation à mes équations. Et là, il a eu l'attention de tous ses étudiants. Et alors, moi, j'ai piqué l'idée.
Exactement.
Et ça marche, mais du tonnerre,
c'est
avec
vrai,
mes étudiants. Ah, mais... Ouais. On a des moments où il n'y a pas une mouche, on n'entend pas une mouche voler, tellement ils sont captivés parce que ça les intéresse, et en fait ça leur parle énormément. Et en fait le but du livre, c'est que ça parle vraiment à tout le monde, ceux qui aiment les maths, ceux qui aiment moins les maths, et qui apprennent à le découvrir, et surtout ne pas avoir peur des maths, et de se dire... Ah, finalement, les maths, c'est super, super bien, après avoir lu mon, ouais, livre. C'est le meilleur des compliments,
bon,
que je peux avoir.
Liliane Ciani, vous auriez aimé avoir un professeur qui vous parle d'amour comme ça?
Pourquoi pas? C'est vrai que vous avez raison par rapport à la peur des mathématiques et le fait de l'inclure dans un autre sujet qui touche beaucoup plus de monde. Ça permet de capter, voilà, de fasciner. Mais
vous avez un cours de maths et, ouais, amour? Enfin, ça se passe comment, vos étudiants?
C'est un cours d'équations différentielles.
Ah, ouais, voilà.
Le fameux terme. C'est ça.
Et les systèmes dynamiques, d'habitude, ce qu'on entend, c'est un pendule qui oscille, on regarde comment ça oscille, etc.
Oh, c'est chiant, ça, finalement, non?
Alors, ça, on va pas dire ça, on va dire que ça intéresse un peu moins les étudiants. En tout cas, ceux qui veulent pas faire de la physique ou de voir des pendules osciller toute leur vie. Et mes recherches sont basées sur les mathématiques et la biologie et la médecine. Et je m'attache de plus en plus, en fait, sur mes recherches au comportement humain et aux sciences humaines. Et notamment, justement, les langues en danger, les régimes alimentaires et les choses comme ça.
Ouais.
Qui font que je me suis, au fur et à mesure, penché vers ce thème-là qui est l'amour. Et en fait, l'idée est venue il y a à peu près 20 ans quand j'ai suivi une école d'hiver à l'école normale supérieure ici à Paris, où le prof Sergio Rinaldi nous a fait un cours de système dynamique qui était très technique, etc. Et à la fin, il venait de publier cet article-là sur Laurent, ouais, Pétrarque. Et là, je me suis dit, le gars, il est magique, il tient un truc super bien.
Ouais.
Et ça m'a tellement passionné, j'étais à la place d'étudiants qui sont... enfin, maintenant je suis professeur.
Qui sont les vôtres aujourd'hui.
Qui,
ouais,
sont les miens maintenant. Et je me suis dit, mais c'est fabuleux. Et j'ai creusé,
Et donc voilà, il parlait de quoi? Il parlait des grands couples mythiques de l'amour, c'est
alors,
ça?
Alors, au départ, il a parlé vraiment de la relation très cyclique de Laure et Pétrarque, parce que Pétrarque était fou amoureux de Laure, et Laure était mariée. Alors, on parle du 14e siècle, ouais. Et Laure, voyant Pétrarque s'approcher, s'éloignait. Et quand elle voyait que Pétrarque, du coup, s'éloignait parce qu'il n'avait plus de chance, elle se rapprochait de lui, etc. Donc, ça fait des amours. Et en fait, un chercheur britannique, Frederick Jones, a essayé de dater les poèmes en fonction de l'état d'esprit très amoureux ou désespéré de Pétrarque.
Donc, tous les sentiments y passent, finalement, c'est
complètement,
ça?
Complètement. Ouais. Du désespoir à l'amour fou, pas l'indifférence, mais entre les deux. Et il a tracé des points sur une ligne temporelle en disant, là, il est désespéré, etc., puisque la plupart des poèmes ne sont pas datés. Et il les avait pas tous. Et en fait, Rinaldi a dit, ça ressemble, ces points, à un cycle. Il a essayé de mettre en équation le modèle qui va correspondre à la fois à l'amour que ressent Laure envers Pétrarque, Pétrarque envers Laure, mais aussi l'inspiration de Pétrarque. Parce qu'il faut se dire que quand Pétrarque était très inspiré, du coup, il allait dans ses écrits, il ne s'intéressait plus à Laure. Et donc, en fait, une sorte de ménage à trois avec l'inspiration qui a fait qu'il a réussi complètement à vraiment mettre la courbe qu'il avait sur les points qui étaient donnés par ce chercheur Frederick Jones, qui était spécialiste de Laure et Pétrarque. Et il a même prédit là où des poèmes n'étaient pas encore datés. Et c'est là que le sérieux des mathématiques rejoint complètement la magie de l'amour et du romantisme, qui fait qu'on s'est dit, mince, on peut prévoir le comportement amoureux et notre comportement amoureux, parce que maintenant on en parle.
Mais ça, c'est pas romantique du tout de mettre l'amour en équation.
c'est surtout, est-ce que ça marche, quelle que soit la personnalité des sujets?
Alors, j'ai donné plein d'exemples dans le livre, qui sont des exemples pour l'instant de la littérature, qui sont Cyrano de Bergerac, Jules et Jim pour le triangle amoureux, et donc différents cas. Par exemple, Cyrano de Bergerac, c'est le mensonge. Comment le mensonge permet, si on a aucun attrait physique pour la personne qu'on aime, c'est-à-dire Cyrano en l'occurrence, il avait un grand nez, et Roxane n'a pas du tout d'attirance.
Écouter un extrait, tiens, justement, d'accord, qui illustre parfaitement ce que vous venez de nous décrire. Extrait du Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau.
Voilà, j'aime quelqu'un. Qui ne le sait pas d'ailleurs. Pas encore. Mais qui va bientôt le savoir s'il l'ignore. Un pauvre garçon qui jusqu'ici m'aima timidement, de loin, sans oser le dire. Laissez-moi votre main, voyant là la fièvre. Et moi j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Et figurez-vous, tenez que, justement, oui, mon cousin, il sert de votre régiment. Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Il a sur son front de l'esprit, du génie. Il est fier, noble, jeune, intrépide, beau.
Beau?
Quoi qu'avez-vous?
Moi? Rien. C'est ce bobo.
Voilà, Laurent Pujot, main jouée. Et là, tout s'écroule, évidemment, lorsque Cyrano comprend qu'elle ne parle pas de lui.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il n'est pas dans le bon équilibre. Et il va ramer pour essayer il rame involontairement, mais par le biais de Christian, qui est celui dont parle Roxane, qui est beau, justement, mais qui du tout n'a pas du tout d'esprit. Et au final, ce qui va se passer, c'est que se crée une sorte d'équilibre dans lequel, qui est complètement défavorable à Cyrano, puisqu'il sait que c'est perdu. Il le dit, d'ailleurs. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que par le biais de ces poèmes et de ce que va chanter Christian et la beauté que va louer Christian envers Roxane, il va se déplacer son équilibre en changeant la façon de voir le charme chez un homme pour Roxane. C'est-à-dire que Roxane, au début, elle dit justement « il est beau ». Et à la fin, elle se rend compte que c'est pas la beauté qui va l'intéresser dans Christian, c'est ce qu'il dit. Et là où elle s'en rend compte, c'est complètement à la fin du film où elle découvre qu'en fait la beauté ne venait pas de Christian, mais vraiment de Cyrano. Ouais. Et c'est là que c'est ce moment-là où, alors il y a un spoiler, hein, il meurt, hein, Cyrano. et Cyrano, elle se rend compte qu'elle perd quasiment ses deux amours, à la fois Christian, qu'elle aimait pour sa beauté, mais surtout Cyrano, qui était en fait l'homme de sa vie.
Alors, il y a plein de couples mythiques, hein, évidemment, dans ce livre. Il y a évidemment Laure Pétrarque, Roméo et Juliette, Roxane, Cyrano de Bergerac, et Francis Cabrel et Lara Fabian, quand même.
J'ai pas pu m'empêcher de mettre des chansons
dans tous les domaines. Mais vous adorez la chanson, ça se sent, hein, aussi.
Ah, mais j'adore la chanson. Et c'est très éclectique, hein, ça part de Gainsbourg à Aznavour, etc. Quand Aznavour dit « tu te laisses aller », c'est parfaitement l'illustration des paramètres du modèle qui disent comment est-ce qu'on veut que le couple va durer. Et donc, il y a des paramètres qui disent « ben en fait, ce pouvoir d'attraction change. Au début, justement, on est attiré par quelqu'un, en général, par l'aspect physique. Puis, il y a les 3, 4, 6 mois qui font qu'on est vraiment attaché. Et quand la routine s'installe, le charme est différent. Et c'est ce changement de paramètre qui risque de nous faire basculer d'un équilibre qui va être complètement favorable au début pour nous, vers quelque chose qui est « je te supporte plus ». La chanson d'Aznavour, c'est « tu te laisses aller, tu te laisses aller ».
Mais ça, les mathématiques le prouvent aussi, qu'il y a des temps vraiment dédiés à l'amour ou pas?
Alors, c'est suivant le caractère qui est... Alors, les paramètres dépendent à la fois de la personnalité propre, après de l'éducation, du milieu social, où on le cache plus ou moins, etc. Ouais. Et donc, chaque paramètre est ajustable. Et le but est de pouvoir, suivant chacune des personnes, savoir à peu près votre environnement d'équilibre, où vous êtes, et dire... Bah là, c'est pas du tout favorable. Et puis voilà, moi, ce que je donne comme conseil, voilà ce qu'il faut faire, justement, pour revenir un peu comme Cyrano a fait, vers un équilibre qui sera complètement favorable pour que le couple dure. Et c'est le conseil que je donne, que je donne dans le livre.
Ça nous intéresse, hein, évidemment. Sophie, vous avez une petite intervention
à faire. Est-ce que les sites de rencontres, Tinder, Mythic, etc., voilà, bah, vous me dites la même chose. Ce ne sont que des mathématiques?
Alors, ce sont là, pour le coup, des probabilités de rencontre. Parce que le but, c'est on se connaît pas, on se rencontre. Et ça, c'est le début de la relation. Et c'est pas ce qui m'intéresse à moi.
D'accord.
Et d'ailleurs, moi, à la limite, je dirais, bah, c'est l'avantage d'être ici dans la radio, de dire à tout le monde, tous les auditeurs, levez votre nez des applications, des téléphones, parce que la personne que vous avez en face de vous, par exemple dans le métro, est peut-être la bonne. Soyez juste ouvert et prêt à regarder, à voir les signaux qui font, et allez-y, quoi.
Il n'y a pas de métro avec Aix-en-Provence. Hein.
Ah bah, allez dans la rue, dans un bar, quelque
chose. On n'augmente pas la probabilité en se mettant sur ces sites.
Ah, on augmente la probabilité, mais est-ce que ça va marcher ou pas? Et ce qui m'intéresse, moi, après, c'est après. Parce qu'on peut avoir une super soirée à discuter, puis pendant une semaine, ça va être l'amour fou, le coup de foudre, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement après, quand la magie est encore là, mais différente.
Ouais. Vous nous dites, faites-vous bouger l'ocytocine. Hein. Je crois que c'est un des mots que vous employez pour que le couple fonctionne bien. Hein, parce que vous êtes très énervant, parce que vous êtes très heureux en couple, visiblement, avec votre mari, il s'appelle Laurent, puisqu'il est là, voilà, derrière la vitre, et vous en parlez en plus dans ce livre. Et alors, vous, votre recette pour faire durer votre couple, c'est quoi alors? C'est de vous être manqué, visiblement, d'ailleurs, au début. Hein.
Ouais, on s'est manqué terriblement, et ça nous a appris justement à nous connaître. Et c'est-à-dire, c'est la deuxième partie qui est comment trouver le charme chez l'autre et la façon dont on entretient le couple et que ça marche super bien, qu'on est super heureux ensemble.
Non mais vous regardez vos équations mathématiques tous les matins? Qu'est-ce qui se passe?
Tous les jours, tous les jours.
La rupture dans votre science, donc il n'y a pas de rupture amoureuse alors?
Ah si, bah, ce que je donne, c'est les clés justement pour aller vers l'équilibre qui va être l'équilibre parfait, enfin l'équilibre qui va être le plus favorable, sachant que tout autour de nous, il y a d'autres équilibres qui existent qui ne sont pas les bons. Et le but est que vous discutiez, alors après avoir lu le livre, de quasiment que en fait, chacun des partenaires lise le livre et que ensuite vous communiquiez ensemble et que vous disiez, tiens, toi, comment tu vois, enfin par rapport, parce que mon dernier modèle est vraiment la tolérance qu'on peut mettre dans ce qu'on supporte ou non chez l'autre, ou les perturbations extérieures. Si on a une tolérance... très faible, c'est-à-dire qu'on est très jaloux, etc. C'est-à-dire que je pars un seuil très haut, pour moi c'est une barre qui est assez haute. Si on a une perturbation qui va nous faire basculer en dessous de cette barre-là, c'est foutu, le couple risque d'être dans un mauvais équilibre. Le but est de faire baisser la barre le plus bas possible, de telle sorte qu'elle soit protégée de toutes les perturbations.
Donc c'est bien parce que c'est plus le thérapeute de couple qu'il faut aller voir, mais son prof de maths en fait.
C'est ce que je dis à tous mes étudiants.
Bon, bien. Liliane Seni, ça pourrait vous inspirer une composition, ça, l'amour? Parce que vous composez aussi.
Oui, je compose, et oui, mais il y a ce thème-là justement, donc m'intéresse. Là. Et j'avais envie de vous demander, mais est-ce que vous l'avez testé entre guillemets autour de vous?
Alors, j'ai testé chez moi. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Gottman, qui est un chercheur américain qui utilise les modèles mathématiques et qui en fait un business florissant. Et moi, le but n'est pas justement d'en faire un business florissant. Le but est de le rendre abordable pour tous et avoir vraiment les clés.
Eh bien, c'est le cas. Ça s'appelle Le jeu de l'amour sans le hasard, mathématiques du couple. C'est chez Équateur Science et vous en êtes l'auteur, Laurent Pugeot, mon jouet. Merci beaucoup pour ce sujet. Sophie, on est très en retard parce qu'il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez nous donner deux rendez-vous?
Oui, le festival Big Bang, Festival de l'air et de l'espace. se passe à partir de mardi 14 mai à Saint-Médard en Jalles, près de Bordeaux. Oui. C'est un festival à la fois scientifique et culturel. Il célèbre cette année les 50 ans de l'homme sur la Lune. Toute la programmation est centrée sur ce thème. Et puis, eh ben, à Nîmes, pourquoi ne pas aller au musée de la Romanité, redécouvrir l'histoire de Pompéi, racontée cette fois-ci au travers des yeux d'un témoin de l'époque, Pline l'Ancien. Voilà, c'est une exposition qui présente notamment 250 objets archéologiques prêtés par des musées italiens.
Et tout ça est sur le site de la Tête au Carré. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Passez un bon week-end.
Merci à vous.
À bientôt.